C'est l'un des secteurs les plus touchés par le second confinement. L'industrie musicale qui chancelle. Les concerts sont annulés, les tournées également, les magasins et les rayons culturels sont fermés. Les sorties de disques sont repoussées sine die. Ce qui est particulièrement inquiétant, car Noël approche. Période cruciale pour les maisons de disques et leurs artistes, même si tous ne sont pas logés à la même enseigne. Certains sont plus exposés que d'autres. Certaines maisons de disques également, on va le voir. Bonjour Bertrand Burgala.
Bonjour Philippe Vandel.
Vous êtes auteur, compositeur, interprète. C'est vous d'ailleurs qui avez signé la musique du documentaire que j'ai regardé hier soir, De Gaulle Bâtisseur. Vous savez si ça a marché ou pas ?
Je sais pas. J'ai vu qu'on n'était pas dans le top 3 parce que vous venez de le donner.
Mais... Ouais. Vous serez quatrième ou cinquième. Vous êtes également producteur et président du SNEP, le syndicat national de l'édition phonographique, organisation qui rassemble les maisons de disques. Comment allez-vous? Et plus généralement, comment va l'industrie musicale en cette troisième semaine de confinement et certainement pas la dernière?
Bon, l'industrie du disque, plus spécifiquement, parce que le spectacle, on le sait, depuis le premier confinement, il a été mis totalement à l'arrêt. Et l'industrie du disque, elle en a vu d'autres parce que c'est la première industrie qui avait subi, qui avait affronté le numérique au début des années 2000. Et aujourd'hui, avant même le confinement, on réalisait à peu près un tiers de ce qui était le chiffre d'affaires de la musique enregistrée au début des années 2000. Donc, on avait quand même beaucoup de retard à rattraper. Et pendant le premier confinement, les chiffres étaient assez stables parce que le streaming continuait de progresser. Mais évidemment, les ventes physiques s'étaient effondrées, qui restent quand même importantes.
Et importante, c'est quoi la proportion à la louche des ventes physiques, ce qu'on appelle les CD?
40% quand même.
40% et 60%
ouais.
En digital.
Ouais, en digital, en numérique. Et donc, le premier confinement avait été... Donc, il y avait une stabilité, mais qui était en trompe-l'œil. Parce qu'en réalité, on progresse régulièrement, on essaie de regrignoter tout ce qu'on a perdu au début des années 2000, parce que aussi on a été les premiers à essayer d'affronter ça d'une façon positive, en particulier avec le streaming, de faire des choses. Ce qui fait qu'on se disait au départ, nous, bon, ben, on en a vu d'autres, on est un peu comme la sidérurgie. Et là, c'est vrai qu'avec le deuxième confinement, on est en train de rejoindre nos amis du spectacle. C'est-à-dire que...
Le deuxième confinement est plus dur que le premier ?
Il est beaucoup plus dur parce que là, sur les produits physiques, ces deux mois de novembre et décembre représentent 40% de l'année en réalité, parce que beaucoup de disques sont des cadeaux. Ça touche tout le monde parce que ça touche à la fois les artistes populaires qui sont vendus dans les grandes surfaces par exemple, qui sont vendus partout, mais ça touche aussi les artistes plus confidentiels qui vendent des vinyles, ça touche les disquaires indépendants. Il y a une forme d'équité négative qui fait que tout d'un coup, par une espèce de jacobinisme un peu et de sophisme, non seulement on interdit aux disquaires de vendre des disques, mais du coup on interdit les rayons culturels aussi.
Oui, c'est ça, l'équité négative et le mauvais jacobinisme, c'est comme les disquaires ont parlé de vendre des disques, au lieu d'ouvrir les disquaires, on ferme les rayons disques des supermarchés.
On dit qu'il y a 10 000 personnes qui n'ont pas l'eau courante en France, il n'y a aucun problème, on va couper l'eau courante aux autres foyers.
La période est difficile, douloureuse pour tout le secteur de la musique, mais pour tout le secteur de la culture généralement. C'est ce que disait la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, samedi soir. Elle était l'invitée de Laurent Ruquier sur France 2 dans l'émission On est presque en direct.
C'est pas dur, c'est tragique.
Ah.
C'est très très dur.
Vous devez craindre de croiser les artistes
parce que je les croise toute la journée. Ouais. Non seulement je les croise, je les reçois, je les accompagne, je fais... le maximum pour qu'ils traversent cette crise absolument épouvantable que traverse tout le pays de la meilleure façon. Mais moi, je leur apporte des aides logistiques, je leur apporte de l'argent, bien sûr, mais ce qui les fait souffrir, c'est de pas chanter, c'est de pas jouer, c'est de pas être sur une scène de théâtre. Et ça, pour l'instant, je ne peux pas encore leur assurer.
Elle croise tous les artistes, dit-elle, Roselyne Bachelot. Vous l'avez rencontrée, Bertrand Burgala, elle vous a reçu.
Non, on l'a toujours pas rencontrée depuis qu'elle est ministre, mais je pense qu'elle a beaucoup de choses à faire.
Vous aviez sollicité une entrevue ?
Oui, bien sûr.
Et pas de réponse ?
On la rencontrera, c'est pas très grave. De toute façon, je pense que son rôle est difficile parce que on va pas faire du droit constitutionnel, mais c'est aussi le quinquennat qui fait ça. C'est-à-dire que je pense que des ministres comme elle, aujourd'hui, ils sont pris en étau entre une administration et le chef du gouvernement voir l'Élysée. Et donc c'est très difficile. Elle dit je rapporte de l'argent. Alors je savais pas qu'elle était si riche que ça. Si c'est son argent, c'est formidable. Mais j'ai peur que ça soit l'argent de la collectivité.
Au-delà de cette douce ironie, comment le gouvernement vous vient-il en aide, si tant est qu'il vienne en aide à votre secteur?
Écoutez, il y a eu, en fait, au premier confinement, ce qui était assez étonnant, c'est qu'on nous a surtout demandé de faire comme lui, c'est-à-dire de nous endetter, de faire des prêts à la BPI, ce qui est assez dangereux, en fait, parce qu'effectivement, parfois, il y a des problèmes de trésorerie. Mais quand on est déjà dans un secteur fragile, l'endettement c'est pas forcément la meilleure chose. Ça peut aider parfois, mais c'est un peu comme si on disait on va résoudre le chômage en faisant des prêts chez CTLM. Mmh. C'est pas forcément une bonne chose. Donc il y a eu plutôt des mécanismes comme ça. Nous on est contrairement à ce qu'on peut imaginer parfois, la musique c'est un secteur qui est très peu subventionné, qui rapporte beaucoup à la collectivité et qui demande très peu on demande pas des exemptions. Ouais. Au contraire, je pense qu'on est une industrie comme les autres qui fabrique des choses. Donc c'est pas trop, on demande pas des mécanismes comme ça. Le seul mécanisme qu'on a, c'est un crédit d'impôt qui est quand même pour la musique enregistrée de 11 millions d'euros, qui vient d'être légèrement étendu, ce qui est une très bonne chose. Mais un crédit d'impôt, c'est bien parce que c'est quelque chose qui nous, producteurs, nous incite à investir. Mais c'est pas une subvention arbitraire qu'on va donner à tel ou tel.
Le SNEP a lancé une pétition sur change.org il y a un peu plus de deux semaines. Vous demandez la réouverture des magasins de musique et des rayons. Vous avez récolté près de 30 000 signatures, dont celles de nombreux artistes. Jane Birkin, Clara Luciani, M, Big Flo et Oli. Vous pensez sérieusement que le gouvernement va céder?
Je pense que plus on mettra en avant cette spécificité de la culture, moins on a de chance qu'il le fasse. Mais on doit le faire. C'est notre devoir. Et effectivement, on est obligé de parler de ce qu'on connaît, mais on n'est pas du tout en train de dresser on n'est pas en train de pleurnicher, d'être indécent face à la fois une crise sanitaire, une crise économique énorme, en train de dire on veut sauver nos concerts, nos petits avantages. Et il faut surtout pas qu'on soit dans une espèce de compétition victimaire. Je crois que j'ai entendu sur cette antenne il y a quelques jours, je crois que c'est Frédéric Thiriet qui disait c'est scandaleux tout l'argent qu'on donne à la culture. Il y a aucun problème. Moi, s'il veut qu'on change les tranches horaires à la télévision pour la musique qui était sous-représentée avec le football, et quand je vois la façon dont ils ont négocié très intelligemment les droits du football, s'il veut vraiment jouer à cette compétition-là, je suis pas sûr qu'il la gagne.
Et les droits du football, on n'en est pas en millions, on en est en milliards. Vous restez avec nous, Bertrand Burgala. Une question que tout le monde se pose, est-ce qu'on craint des faillites? Réponse juste après ça. En compagnie de Bertrand Burgala, le président du SNEP, on parle du marasme. Le mot est faible dans le monde de la musique, que ce soit les ventes de disques ou les concerts qui ont été annulés à cause du Covid. Est-ce que vous craignez des faillites?
La musique, en fait, c'est vraiment une activité comme les autres, et c'est un très bon miroir de notre société. C'est pour ça qu'il y a 20 ans, quand on a été les premiers à être impactés par le numérique, on nous regardait parfois avec condescendance. Finalement, donc ce qui nous est arrivé est arrivé aux autres.
Mais ma question est plus prosaïque que ça. Est-ce que vous avez des collègues qui ont un petit label, qui vous ont dit, on passera pas Noël, on passera pas le mois de mars si ça s'ouvre pas?
Oui, parce qu'en plus, on a une espèce de surinfection. C'est qu'avant ça, il y a la baisse des ventes de disques, mais il y a la baisse des droits voisins, puisque comme la musique n'est plus diffusée dans les boutiques, dans les restaurants, etc.
Ah oui, ce sont des droits d'auteur qu'on récupère.
À la fois des droits d'auteur via la SACEM, mais des droits voisins aussi via les sociétés de gestion, les organismes de gestion collective. Donc c'est beaucoup de perceptions. Ça va faire 40 à 50% de perceptions en moins. Et en plus, on a eu un arrêt de la Cour européenne, de la Cour de justice de l'Union européenne, qui fait que les irrépartissables, c'est-à-dire que grosso modo, les Américains ne payant pas des droits aux interprètes, aux musiciens interprètes, on ne leur renvoyait pas ces droits qui servaient à la création ici. Et il y a un arrêt qui vient de décider que tous ces droits allaient repartir. Donc il y a aussi la moitié de ces aides-là qui sont en train de ce financement-là qui vient de partir. Mais ce qui est intéressant dans la musique enregistrée, c'est vous avez quatre strates. Vous avez les autoproduits. Ouais. Évidemment, pour eux, c'est très compliqué. Les gens qui font eux-mêmes leurs disques. Vous avez les structures artisanales comme la mienne.
Trigatel, votre label. Ouais.
Vous avez aussi des gros indépendants qui sont des gens qui investissent beaucoup.
Exemple de gros indépendants.
Bah, vous avez Tôt ou Tard, Wagram, Because, ouais. Et qui sont des gens qui prennent beaucoup de risques quand ils sortent un disque. Et vous avez les majors. Ouais. Et chacun est impacté d'une façon différente.
Les majors, c'est Universal ou Sony, les grosses peintures qui ont d'autres activités.
Qui peuvent avoir d'autres activités parmi leurs propriétaires, mais qui quand même font de la musique. Et dans cet écosystème, on est tous assez complémentaires. On a tous besoin les uns des autres. Et évidemment, il va y avoir...
Non, mais je veux dire par là qu'on se doute que ce n'est pas Universal ni Sony qui vont fermer, si quelqu'un doit devoir fermer.
Non, ils ne vont pas fermer, mais ce qui est important...
Ils pourraient racheter les petits, les gros.
Ce qui est pas mal, c'est que les majors, quand même, quand il y a eu le numérique, c'est pour ça que je fais toujours ce parallèle il y a 20 ans, qui était un cataclysme. Tout d'un coup, la musique est partout, elle est gratuite, etc. Ils ont fait très peu de plans sociaux. Ils ont été plutôt pas mal là-dessus. Ils n'ont pas viré d'artistes. Ils sont plutôt bien conduits. Et là, quand il y a eu le premier confinement, c'est une industrie qui a très peu actionné le chômage partiel. On a essayé d'être très responsable. Mais encore une fois, je pense que Peggy disait, enfin, il n'y a rien de plus beau que de mourir pour la patrie, à condition que ça soit utile. Donc, je pense que se sacrifier pour la collectivité, avoir toutes ces difficultés, très bien si c'est utile. Et je pense que c'est là, on va pas faire de contestation médicale, mais on n'est pas contre la médecine actuellement, on est contre l'administration, ce qui est assez différent.
Alors qu'on a compris ce que vous ne voulez pas faire, qu'est-ce que vous allez faire? Les libraires notamment sont organisés, ils ont lancé des sites internet pour que leurs clients continuent à acheter des livres, le click and collect, et les disquaires.
Vous voulez dire le retrait en magasin?
Oui.
mais eh bien, ce qui est assez formidable, c'est que le gouvernement a adopté une mesure concrète qui est très bien pour les libraires, mais qui était faite au début pour les libraires et les disquaires évidemment, c'est d'avoir des tarifs postaux qui soient adaptés. Pendant le premier confinement, des labels comme moi, on n'a pas arrêté d'avoir des demandes de vente par correspondance, mais la Poste était complètement désorganisée, elle ne livrait pas, et on avait des tarifs qui font évidemment le jeu des plateformes comme Amazon. Et moi, je considère qu'il ne faut pas qu'on pleurniche contre Amazon, toujours dire Amazon, mais qu'il faut qu'on ait des initiatives positives qui fassent qu'il y ait aussi des alternatives.
Si j'ai bien compris, vos coûts d'expédition étaient vraiment trop supérieurs par rapport à ce que peut se permettre de pratiquer Amazon, et donc c'était rédhibitoire. Et pour vos achats.
Absolument, et les incertitudes sur la livraison, ce qui fait que ça précipite tout le monde vers Amazon. Donc là, le gouvernement a proposé une franchise postale d'un centime, mais qui était destinée aux libraires et aux disquaires, et finalement, au dernier moment, Bercy ne l'a appliqué qu'aux libraires. Alors, je ne sais pas, peut-être que Bruno Le Maire ne fait pas de disques, c'est vrai, mais c'est une distinction qui ne repose sur rien.
Bruno Le Maire... Bruno Le Maire, qui est le ministre de l'économie, qui écrit des livres. Et qui a des rares politiques à les écrire lui-même, c'est quand même assez rare pour être signalé.
Oui, souvent, ils ne les lisent même pas.
J'aimerais bien avoir votre avis sur Amazon. Est-ce qu'il vous aide ou est-ce qu'il vous pénalise? Parce qu'il vous pénalise, vous venez de le dire, grâce aux conditions qu'il s'est lui-même créées, ce géant américain, et en même temps, il vous aide parce qu'on peut trouver des disques sur Amazon qu'on ne pourrait pas trouver ailleurs.
Mais c'est là où il faut, encore une fois, je me méfie de cette équité négative. Le problème, c'est pas Amazon. Le problème, c'est notre incapacité à avoir un service postal en France qui puisse aider cette industrie et les autres industries, d'avoir des alternatives à Amazon. Pour moi, le problème n'est pas Amazon. Et j'ai très peur, si je prononce aujourd'hui, dans notre pétition, à un moment, on dit les rayons de charcuterie sont ouverts et pas les rayons de disques. Je me suis dit, mais on dit une connerie, parce qu'ils vont peut-être fermer les charcuteries, du coup.
Oui.
Donc j'ai peur que cette espèce de folie administrative... ne s'étendent.
Oublions
donc,
les bouchers.
Non, mais en tout cas, Amazon, ils ont un modèle qui, effectivement, disons que les conditions qu'ils demandent aux producteurs sont difficiles, mais à nous de trouver d'autres solutions. Et c'est là où on a besoin, en particulier, de la Poste.
Est-ce que certains artistes, certains genres, sont plus touchés que d'autres par la fermeture des magasins?
Oui, mais la fermeture des magasins, donc des petits disquaires, c'est beaucoup plus les artistes, je dirais, indépendants, ce qu'on appelle les esthétiques difficiles, enfin les gens comme moi qui sont, je dis pas les artistes impopulaires, mais les artistes pas populaires. Et en revanche, dans les grandes surfaces, ce sont les artistes populaires. Et en plus, comme ça a été annoncé d'une façon très, très, très rapide, pour leurs producteurs, d'abord, évidemment, c'est des années de travail qui sont mis à la poubelle, enfin, avec tout ce que ça peut engendrer, parce que c'est des gens qui, pour les artistes plus populaires, ça veut dire qu'ils avaient avaient fait des plans marketing, qu'ils avaient acheté de l'espace, qu'ils avaient, et tout ça est mis complètement à la trappe. Donc c'est ceux-là aussi qui sont les plus impactés.
On apprend toujours des expressions avec vous, Bertrand Burgala. Je viens d'apprendre l'expression esthétique difficile, oui, dont vous êtes représentant, oui, puisque vous avez sorti votre dernier titre en avril dernier, lors du confinement, Bertrand Burgala dans ses œuvres.
Vous êtes bien là, c'est bien ma chambre, c'est bien mon lit. Mais dans ma tête, je suis parti en bord de mer plutôt qu'à Paris. Vous êtes ici, au point précis de la faille spatio-temporelle, dans le turquoise rebelle qui resplendit, le turquoise aigu de nos vies. Vous êtes ici, où se reposent les loups masqués, les panthères soirs, où les horizons poudraient d'or.
Vous êtes ici, extrait de votre dernier album que vous avez annoncé pour la fin de l'année. Vous allez maintenir la sortie ou la repousser?
Non, je la repousse, mais pas. C'est pas. Alors, le Covid a bon dos. C'est parce que je suis pas encore content de mon album.
De Gaulle Bâtisseur, je vous avais dit que c'était quatrième. C'était quatrième. 1,32 million de téléspectateurs et 5,5% de part d'audience. Merci, Bertrand Burgala. Bravo. Président du SNEP, syndicat national de l'édition phonographique. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Europe.